La maison du castor est à côté. L'eau est gelée, puis il va faire un trou pour checker.
Changer d'eau de monade.
Parce que là, la pièce est dans, en dessous de la glace, en dessous de la neige.
Épisode numéro 3, à l'origine des savoirs.
La mère Terre, para nosotros, nuestro Dios.
La mère Terre pour nous, c'est comme le Dieu.
Tiene una potencialidad de...
Il a un pouvoir, cette terre, un pouvoir pour guérir à travers les plantes.
Voyage en terre indigène.
Allô?
Une mémoire des hommes qui s'efface. Une série d'Anne Pastor.
Inuits, Indiens, Pygmées, Aborigènes, ils sont près de 370 millions à vivre en Amérique, en Amazonie, en Afrique ou en Australie. Souvent réduits à l'image d'objets de curiosité, ces peuples menacés par la mondialisation sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors, peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, direction le Grand Nord au Québec et la Cordillère des Andes en Bolivie. Les Kalawayas de Bolivie sont des nomades guérisseurs. Depuis le 8e siècle, ils voyagent à travers l'Amérique latine pour ramasser les plantes sauvages et soigner les malades. Médecins des Incas, leur savoir est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Cris du Grand Nord vivent, eux, le long de la plus grande réserve naturelle d'eau douce du Québec. Autour du lac Mistissini, ils chassent l'ours et le castor. Grâce à leur savoir traditionnel, ils savent anticiper les désastres écologiques. Deux peuples, deux continents et un même voyage au cœur des savoirs.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Hike. Oui, il ne faut pas tenir trop proche aussi parce que la glace la revole. Yeah, bien, hot. Doucement. Le filet est déjà en dessous. Mais les poissons vont sortir d'ici. Il va y avoir un brochet là-dedans.
Il a été installé quand ce filet?
Oh, 4 days, 4 nights. 4 soirs.
Wow!
Comme Solomon a dit, c'est sûr qu'il va y avoir un brochet. Puis l'autre poisson, je sais pas comment tu appelles ça en français. Là. Un toteux. On appelle ça un toteux parce qu'il n'y a pas de dents.
Au Québec, chez les Indiens Cris.
Moi, je te dis bienvenue dans notre région. C'est un grand espace pour toi. Les voisins sont juste pas à côté de nous autres, sont loin, loin, loin. Mm-hmm. Et notre voisin le plus proche est à peu près 300 kilomètres. Hier, il faisait comme moins 28. C'est très beau. La neige ici est blanche. Tu peux poser des collets, tu peux aller à la chasse, tu peux aller à la pêche, tu peux faire ça à pied, tu peux descendre au bord du lac puis prendre l'eau, de le boire. C'est très, très bon.
Sur ce grand espace de 350 000 km² vivent encore quelques dizaines de milliers de cris.
Oui, on est à peu près, moi je dirais, au moins 18 000, 20 000 cris en tout. C'est une population qui est très nomade. Je pense qu'on est arrivé au campement d'Anan et David. Je pense qu'ils sont là.
Oh, voilà! Hello!
How are you? Waja, 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 waja.
Waja, waja.
Tando, tu bien?
Non, tu es.
À la rive du bois. Parce
que moi, on est tout.
C'est là que tu vas rester, c'est ça qu'elle dit.
Ah, je comprends que tu peux attendre.
C'est là que tu vas dormir. C'est à peu près 1, 2, 3, 5 mètres par 8 mètres environ et 3 mètres de haut. Si tu laisses ça, tu vas trouver des branches de sapin. C'est ça qui rend l'odeur. Ça sent bon, mais c'est bon pour quand tu es malade aussi. Hein? Il y a du médecine dans notre tapis traditionnel. Tu vas trouver un lit, tu vas trouver une poêle à bois, un petit coin de cuisine, et ça te donne une idée, la mode de vie des cris.
C'est un territoire grand comme l'Allemagne, où la taïga s'étend à perte de vue. Seule présence de l'homme, ces tipis recouverts de peaux d'animaux et d'écorces de bouleau. C'est sur ces terres que les Cris ont chassé pendant 5000 ans sans aucun contact avec le reste du monde. Pour avoir des nouvelles de leurs proches, ils faisaient notamment appel aux sorciers qui laissaient des messages un peu partout dans la nature. Jusqu'au milieu du XXe siècle, ces nomades vivaient entièrement de la forêt.
On vit comme dans le temps, attraper, hein? Aller à chasse, faire de la raquette, on mange du lièvre, on mange du castor ici.
Aujourd'hui, sédentarisés dans des villages, ils se retrouvent toujours dans des camps de chasse à 4 ou 5 familles.
Le lièvre, la poignière, puis le fait de cuire au bâton pour au four. Anna va commencer à faire ses lièvres, à les arranger.
Les arranger, c'est-à-dire finalement les dépecer.
Enlever la peau, les intestins.
Voilà, et elle est en train de retourner effectivement cette peau de lièvre absolument intacte. Après, elle fera sécher la peau.
Il faut chercher la peau, puis tu peux faire des chapeaux avec ça, ou des manteaux de lièvre, ou des bas de lièvre.
Qu'est-ce que vous allez faire de la peau après, Anna?
Un cachet pro.
Il va te faire des mitaines pour toi. J'aime bien ça être dans le bois. Tu fais beaucoup de choses dans le bois. Tu vas checker tes lièvres, tes collets, tu vas ramasser des branches de sapin. Ça n'arrête pas jamais. Quand tu restes dans le bois, tes pensées fonctionnent plus. Tu te sens plus libre.
Tu me crois mon cœur.
Tu dors bien aussi dans le bois.
Et l'hiver, c'est encore plus particulier, non? L'hiver ici, dans le Grand Nord.
C'est plus fun de vivre dans le bois l'hiver.
C'est plus?
C'est plus fun, c'est plus actif. Tu peux respirer l'air, puis c'est frais.
Et puis c'est l'hiver qu'on attrape les castors, les lièvres, les caribous.
La trappe, ça commence à l'automne, quand il commence à faire frais un peu. Là, la fourrure est bien bonne. Puis l'hiver, c'est là que la fourrure est très bonne pour le ventre. C'est ça sa vie, en harmonie avec la nature, le respect des animaux.
Je m'appelle Marie Rouet, je suis anthropologue et je travaille sur les sociétés arctiques et les relations à la nature. Alors, les Cris du subarctique, ce sont des chasseurs arctiques qui vivent toujours avec le respect de leur tradition et dans une relation étroite avec les animaux dont ils dépendent. Ils ont donc une relation d'amitié, d'échange avec les animaux et il faut qu'ils les respectent pour qu'en retour, cette relation puisse continuer.
Ils font partie de la famille ?
Absolument. Ils sont en relation sociale avec les humains. Et l'ours, par exemple, est un animal avec lequel on parle. Quand un ours s'approche trop près de votre tipi, on va dehors et on lui dit « Ne t'approche pas d'ici, ici, c'est pas chez toi, reste loin. » Et on lui parle fort pour qu'il comprenne qu'il faut pas qu'il s'approche.
David, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes trappeur?
Qui fait de la trappe. La trappe pour le souper. Il cherche la nourriture pour sa famille. J'aime ça être dans le bois, être proche des animaux. C'est comme si c'était mes amis, les animaux. Aller checker mes amis, mes pièges de castor.
Un des premiers anthropologues qui a rencontré les Cris a dit « La chasse est une activité sacrée ». Par exemple, aujourd'hui qu'il y a des routes qui ont été ouvertes à la suite des barrages dans le territoire, il y a des chasseurs sportifs, donc des non-cris, qui abattent des animaux seulement pour les trophées. Et ils laissent la dépouille sur le bord de la route. pour les cris, c'est extrêmement choquant. C'est un manque de respect grave. Parce que si les animaux et les maîtres des animaux voient que vous ne les respectez pas, alors ils vont se dire, peut-être on ne devrait plus venir. Et le succès de la chasse dépend tout autant du maintien et du respect de cette relation que de savoir qu'ils sont très très précis. Et si quelqu'un tout d'un coup n'a plus de succès, ça veut dire ne pas s'être bien comporté, s'être par exemple vanté qu'on allait chasser un animal avant d'aller chasser, ou avoir eu un comportement qui fait que les animaux ne viennent plus à vous.
Vous êtes inter-indigène sur France Inter.
Je vais te raconter une histoire dans l'ancien temps. Le monde, il mourait de faim. Il n'y avait pas beaucoup d'animaux dans le bois. Mais c'était avec les pattes de lièvre qu'ils survivaient. Ils mangeaient ça. Ils faisaient bouillir ça, puis ils buvaient ça. C'est avec ça qu'ils survivaient.
On comprend bien pourquoi tout est conservé, tous les abats, toutes les pâtes. Et d'ailleurs, je crois que la médecine traditionnelle est constituée aussi beaucoup d'abats des animaux.
Tu peux trouver beaucoup de médicaments dans les animaux. C'est lui le docteur là-bas. On va demander les questions, monsieur. David. Ça se fait encore aujourd'hui. Je ne vais pas le montrer tout le monde à tout le monde.
C'est un peu secret.
C'est sacré.
Sacré et secret.
Le castor, quand il fait beaucoup de soleil. La neige, elle devient blanc, puis il est mal aux yeux, puis c'est brillant. Puis c'est avec les intestins de castor qu'on se frotte les yeux. T'as jamais de maladie avec ça après.
Vous soignez encore comme ça, vous?
Oui. La semaine passée, il l'a fait avec lui, à soigner les yeux.
Dans le tipi, il y a cette espèce d'unité, de communauté autour du feu. Donc ils ont besoin, pour se ressourcer, de continuer à venir s'asseoir dans le tipi. Les services sociaux ou les services psychologiques, quand ils ont un jeune qui a fait des casses, qui se drogue, ils l'envoient chez un de ses anciens, dans le camp, pour que ils comprennent les relations avec la nature, les relations avec les animaux, retourner à la ligne de trappe, savoir que le matin il faut se lever pour prendre de l'eau parce que sinon il n'y en a pas. Un travail presque de chaman, et c'est extraordinaire le succès, alors que la communauté avait tenté la médecine, la répression, tout ce qu'on peut tenter.
À chaque printemps, dans les villages, les écoles ferment et les cris se retrouvent dans les bois. C'est le temps de la renaissance, comme disent les anciens. Les rituels sont alors pratiqués dans le tipi, comme celui des premiers pas, où les bébés sont présentés aux ancêtres et aux esprits de la nature. Les enfants jouent au lancer de mâchoires de truite. Les femmes cousent des vêtements avec des dents de brochet ou des aiguilles de lièvre et préparent des médicaments traditionnels à base de rognons de castor ou de peau de poisson. Les hommes, eux, comme jadis, fabriquent leurs outils avec les os d'animaux et des raquettes en bois de plus d'un mètre de long.
Tu mets tes raquettes, non ?
Chacune porte un nom, queue de castor, pattes d'ours, et c'est muni de ces raquettes géantes que Salomon va relever ses pièges.
Bien, c'est un castor, il est en dessous de l'eau. La maison du castor est à côté. L'eau est gelée, puis il va faire un trou. Ôter la glace qui est là, parce que le piège est en dessous de la glace, en dessous de la neige.
Ah voilà, ça y est. Et voilà.
Il a pogné un petit castor. Ils vont l'enlever de la piège, là. Là, le castor est mouillé. On va le faire chasser.
Et voilà, pendant que Salomon prépare le prochain piège.
Il n'y a pas juste celui-là de piège, lui. Il y en a d'autres là-bas.
Et doucement.
Un autre. Oh, mais il est énorme celui-là.
Perrette.
C'est une cabane de castors. On tue pas toutes les castors. On tue deux, trois seulement.
Perrette.
On met des pièces à castor, puis c'est le castor, c'est comme un cri.
Oui, et comme un homme, et dans des relations étroites d'observation et d'échange. Pour les cris, les castors sont comme nous. Par exemple, les vieux sont plus savants que les jeunes. La famille est extrêmement importante chez les castors. Les castors, comme nous, ont des nourritures préférées. Ils vont faire des kilomètres et quand ils vont être délogés, ils vont revenir pour retrouver leur nourriture préférée. Mais de surcroît, il y avait aussi cette dimension éthique qui était qu'on souffre si les castors souffrent. Par exemple, quand les barrages ont été faits et qu'on a relâché l'eau en inondant toute la vallée, les cris ont supplié le concepteur Hydro-Québec de retarder de quelques temps pour que les castors ne soient pas ennoyés, sans être compris.
Le barrage fut quand même construit dans les années 70 et le savoir des cris n'avait pas été entendu. Pourtant, ils avaient anticipé les impacts écologiques.
C'était vraiment une expertise énorme, puisqu'ils pouvaient, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, ils peuvent faire aussi, comme les ingénieurs, de la prédiction sur ce qu'allait faire la compagnie Hydro-Québec et la raison pour laquelle ce que les ingénieurs pensaient ne marchait pas. L'eau ne s'arrêterait pas où ils croyaient. Les endroits dans lesquels vivent les castors en bas disparaîtraient. Il ne resterait plus que les hauts des montagnes pierreuses. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre leur savoir grand sur la nature et dire oui, mais si l'eau est lâchée à tel endroit, elle ira jusqu'à tel endroit, tel milieu n'existera plus, et les décrire avec une précision écologique extrême qu'absolument aucun service d'ingénieur ou même d'écologue n'avait décrit.
Il va manger avec moi. Il partage. Quand il prend des castors, là, il invite tout le monde, ses amis.
Perrette.
Comment vous allez le préparer?
Non, ils vont le faire tourner au feu.
À la broche.
À la broche.
J'ai tout envie, ma mère, faire ça.
Ouais.
Elle dit qu'il faut qu'elle se dépêche un petit peu si elle veut que le castor soit prêt avant 5 heures.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire des intestins, des abats?
Il dit qu'on les mange aussi. On a enlevé les testicules. C'est la seule partie du castor qu'on enlève.
When he's done that, it's just a small piece in the trap and that's why it's miami oasis.
Lui, qu'est-ce qu'il fait avec les testicules? Il met ça pour attraper l'ours parce qu'il sent vraiment fort.
Et des ours, vous en attrapez souvent?
C'est une fois par année. Ça, c'est le peau de l'ours.
Mattress.
Ça sert le matelas.
Voilà, et pareil, hein, chez l'ours, on mangera sa viande, mais on utilisera sa peau et on se servira de ses os pour en fabriquer des outils.
Il faut vraiment respecter les animaux. Surtout, il faut que tu aies une raison. Ça veut dire qu'il ne faut pas tuer quelque chose que tu ne sais pas que tu vas faire avec ou jeter à la poubelle.
Ça, c'est Salomon.
Salomon qui arrive avec deux lièvres qu'il a été trappé.
Il dit qu'ils sont vraiment beaux. Là, c'est le temps de les nettoyer. Là. Les femmes, les travaux s'arrêtent jamais.
On finit de retourner encore quelques fois ce castor-là accroché le long de la corde, adossé au feu de bois et au poêle.
C'est cuit.
les morceaux.
Souper, ils vont venir souper.
Voilà, toute sa famille qui arrive.
C'est la fille à Anna, son mari, ses enfants.
Hello.
Hello.
Ok, tu peux faire ton assiette, on va manger.
D'accord.
Non, mais Anna, il va faire la prière avant de manger pour le castor, pour la journée, pour vous autres aussi, la visite. On va prier pour toi aussi.
Amen. Amen. Amen.
Et bon appétit, comme on dit en cri.
Miomitsu. Sur Mr. Mitsu.
La queue du castor, réservée aux femmes.
Hein.
D'avoir comme ça vos enfants qui viennent vous rendre visite, c'est quelque chose d'important pour vous?
Oui, parce que c'est là qu'ils ont commencé avec ses parents. Une tante comme ça, là, c'est très important pour garder notre culture.
On va être toujours comme ça.
Voilà.
Vivre dans la nature jusqu'à temps qu'on meure. Tiens, Meka. Ça veut dire c'est vrai.
So that's how the song goes. Right? Just repeat and repeat.
À 8000 km de là, d'autres prières, d'autres savoirs. En Bolivie, au cœur de la cordillère des Andes, les Kalawayas sont des nomades guérisseurs. Médecins des Incas, leur savoir est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Maintenant, j'ai choisi 6 feuilles de coca et là, on va enterrer les 6 feuilles de coca. Ça, c'est sacré et on fait ça tous les jours.
Et Apollinaire est en train de faire le signe de croix et de répéter une prière dans la langue secrète Kalawaya. Vous êtes un terre indigène. Sur France Inter.
La mère Terre pour nous, c'est comme les dieux. Il a un pouvoir, cette terre, un pouvoir pour guérir à travers les plantes.
The chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's inherited songs, a block in St. John Wood. And your father, the man there with her. Only good, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Is
On vient de ramasser des plantes chaudes. La cause de la maladie des rhumatismes, c'est le froid. Donc, il ne faut pas préparer la pommade avec des herbes fraîches. Il n'y aura pas aucun effet.
Voilà, c'est l'un des ingrédients de la pommade et on la trouve au bord de ce petit ruisseau.
Vous êtes en terre indigène, sur France Inter. En Bolivie, chez les Kalawaya.
Ce qui veut dire en quechua, celui qui porte les plantes sur le dos. N'importe qui n'est pas Kalawaya, il faut avoir reçu un enseignement, une transmission concernant cette médecine ancestrale. Et donc c'est une culture, une civilisation très ancienne qui a été reconnue en particulier par le peuple Inca au 14e, 15e siècle, puisqu'ils ont décidé d'en faire les médecins de la noblesse incaïque. Donc il y a une histoire très importante et une culture très riche qui fait qu'aujourd'hui, la médecine Kalawaya, classée au patrimoine mondial de l'humanité, est considérée comme une des grandes médecines mondiales, au même titre que la médecine ayurvédique ou chinoise. Elle est beaucoup moins connue, c'est vrai.
Et voilà, on revient à la maison accueillie par les femmes et les enfants du village. Il met les plantes qu'on a récoltées sur la table. L'eucalyptus, le cyprès royal.
Prends
ça, coupe ça. Trois fois, c'est tout.
Et alors, autre partie, pain royal.
Maintenant, tu ajoutes les pains royaux.
Cette médecine utilise donc une pharmacopée très importante. On a recours aux plantes, un millier d'espèces végétales sur trois niveaux écologiques. Elle englobe un certain nombre de recettes qui se traduisent par la fabrication de pommades, d'essences, de tisanes, de sirops. Il y a des déclinaisons assez variées. Le secret, en fait, repose dans les compositions et les assemblages de ces plantes.
Luego se coloca a la olla para la preparación de la pomada.
Oui, je suis en train de moudre. Et une fois qu'on va moudre tout, on va mettre dans la marmite en rajoutant du miel d'abeille. Il faut mettre des grammes exacts.
Est-ce qu'il y a des jours où on peut faire la pommade et des jours où on ne peut pas faire la pommade?
À part mardi et vendredi, c'est possible de faire la pommade. Parce qu'il y aura un bon effet. Selon la tradition kalawaya, mardi et vendredi, c'est un jour de mauvais esprit.
Pour garantir l'efficacité de la pommade, Teodorio et son fils ont ramassé plus de 30 plantes sauvages. Certaines à 4000 mètres d'altitude au cœur des Andes boliviennes, d'autres dans les régions tropicales d'Amérique latine. C'est ainsi qu'au fil des siècles, les Kalawaya ont enrichi leur savoir et leur médecine. Apollinaire Ramos Quispe, surnommé le gitan des Andes, lui revient d'un long voyage. Il est l'un des 50 derniers guérisseurs Kalawaya. Il porte encore le costume traditionnel, un pantalon à baillettes, un chapeau noir, un pancho avec tous les symboles de cette culture, le lama, les oiseaux et l'arc-en-ciel. À son cou, une croix d'argent et deux sacs, l'un rempli de feuilles de coca, l'autre de plantes sauvages.
Donc, par exemple, je vais soigner les gens qui sont paralysés du pied. Et je vais soigner l'énergie. Et je soigne, par exemple, quelqu'un qui a une énergie négative, une énergie noire. Il faut soigner ça. C'est ça que je soigne, l'énergie.
Comment est-ce que vous voyez chez la personne qu'elle a une énergie mauvaise?
À travers de la coca.
À travers de la coca.
Est-ce que vous pouvez nous montrer?
Je pone 12 hojas de coca.
Il faut trouver 12 feuilles de coca.
Entonces, esta es una persona.
Il va couper un petit bout de la feuille de coca pour signaler que c'est la personne.
Este ya está huequito, ¿no ve?
On va trouver une autre petite feuille de coca qui a un petit trou. Si cette feuille de coca avec le petit trou, ça va
posé sur la feuille de coca qui représentait la personne, ça veut dire qu'il est malade, qu'il a une mauvaise énergie.
À travers la coca, c'est pesca eso.
On va savoir à travers la coca si c'était quoi la maladie, si c'était à cause de le vent, la mer, terre, l'eau, le ciel, le soleil.
Entonces, ahora el viento también nos pone paralítico.
Même le vent peut nous donner une paralysie, donc le vent peut nous donner pas mal de problèmes.
Il vient de jeter la feuille de coca par terre.
Aquí, aquí. Mira la ve. ¿Han visto esa costilla? ¿La ve? Sí.
Sí. Entonces, on voit véritablement un chemin.
Este era la coca verdadera. Pero esto se ha aumentado ya ahora. Por eso tiene tres espíritus, la coca.
Avant, la feuille de coca, c'était une seule. Hein. Mais il y a trois esprits dans la feuille de coca.
Voilà, et on voyait l'esprit à travers les traits. Et effectivement, on voit trois traits.
Cinq, seis hojitas. Esto es sagrado todos los días.
Maintenant, j'ai choisi six feuilles de coca. Et là, on va enterrer les six feuilles de coca.
Pour être un médecin kayawaya, il faut non seulement connaître la pharmacopée, mais la médecine kayawaya prend en compte les trois règnes de la nature, le minéral, l'animal et le végétal.
Éric Lactil, président de l'association Éclat.
Il faut aussi connaître toute la partie de ce qu'on appelle les guérisons symboliques à travers les rituels, les lieux sacrés, les prières, les offrandes et tout ce qui va permettre en fait de accompagner une guérison à la fois sur la dimension spirituelle et sur la dimension physique, émotionnelle et psychologique.
Et alors, Alexandro, quand vous le regardez?
Si, il tiene una energía negativa.
J'ai une énergie négative.
Para llamar tu ánimo.
Il va me soigner, il va appeler mon âme, mon esprit.
Ces rituels de guérison sont des actes très beaux et c'est une manière de se reconnecter avec la nature. Parce que pour eux, un être qui est en mauvaise santé, c'est un être qui a perdu une relation profonde avec la nature. Ils vont interroger l'âme du patient et tout l'art de la consultation d'un kayawaya, c'est d'essayer de repérer quelle partie de l'esprit, quelle partie de l'âme s'est déplacée et restée quelque part, et restée attrapée dans un lieu, au pied d'un rocher, au bord d'un lac, au sommet d'une montagne. L'enjeu sera, à travers les rituels, de retrouver l'équilibre.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter.
Voilà, et Apollinaire nous attend pour un rituel de guérison qu'il a proposé à Alexandro. On rentre dans sa petite cabane.
Tome asiento. Gracias. Este es para un cambio de tu suerte, ¿no? Esta es la blanca y esta es la negra.
Là, on va mettre la préparation pour le rituel. C'est la laine blanche et noire des moutons.
Y esto es cebito de llama.
Et là, on sort le gras du lama. C'est pour la force, prospérité.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Sangre de l'arbre.
Le sang de l'arbre, la sève qu'il y a dans l'arbre.
Voilà, et alors toutes les offrandes sont recouvertes de laine de lama. Et là, il est en train de les encercler de cette cordelette blanche et noire. Avec l'offrande, il fait un signe de croix et il récite des prières à la langue secrète kayawaya.
Il m'a mis les petites préparations à côté de la poitrine. Donc c'est là que je dois penser à tous les problèmes que j'ai eus.
Tous les mals qui se veillent.
Il vient de dire que le mal s'en aille et qu'il puisse te soigner. Régulièrement, Apollinaire fait des cercles avec sa cigarette.
Et ahora, yo lo voy a correr aquí, lo voy a hacer un baño.
Il va me faire un bain.
Ya.
va me nettoyer avec beaucoup de ces herbes, etc.
Il est en train de verser cette préparation qui est très très chaude dans une grande bassine. La couleur de la préparation est assez rouge, avec une odeur assez proche de l'eucalyptus. Et Apollinaire est littéralement en train de laver Alexandro. Et il prend cette eau chaude, remplie de préparation, qu'il passe sur son corps.
Una purificación, una limpia. Estamos dando la nueva energía.
Et maintenant, je l'ai purifié avec une nouvelle énergie. Et tout est bien, tout est propre, ses pensées. Comment vous sentez?
Bien, plus nettoyé, que les mauvaises énergies partent de mon corps.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette préparation?
Oh, beaucoup, beaucoup de plantes.
Mayormente c'est espina, otras hierbas medicinales.
Il y avait pas mal de plantes épineuses, et plantes de chaud, de froid. C'est tout un mélange de différentes plantes.
Bueno, un día. Una escucha que puede ser que no se busque en el juego de su buen cultivo. Viaje, salud, amor, sus hijitos, su esposo, todo. Que te viene.
Il me souffle de l'air chaud sur la tête.
Listo.
Les Kayawanya, il faut le savoir, ont été jusqu'à dans les années 70 chassés, condamnés, voire même. Tués. Ça a été le cas à la conquête espagnole, alors qu'ils étaient vénérés, considérés véritablement comme des passeurs entre le monde du vivant, le monde du minéral, de l'animal, du végétal, à l'époque des Incas. Ils sont rentrés dans le culte du secret, ce qui leur a permis de passer ces siècles d'histoire, de répression, et de maintenir jusqu'à dans les années 60-70 vivantes leur tradition.
Vos ancêtres étaient des nomades guérisseurs et vous, Apollinaire, vous êtes aujourd'hui, en 2016, un nomade guérisseur et vous continuez le travail de vos ancêtres et vous voyagez un petit peu partout pour aller soigner des gens.
Si, dans beaucoup de pays, tout en Sud-Amérique, Pérou, Équateur, Colombie, Chile, pour nous, pour le Kayawaya. No tenemos frontera.
Pour nous, le Kayawaya, il n'y a pas de frontière.
Comme le condor.
Nous sommes comme les condors.
Comme le zorro.
Comme les renards. Comme les animaux qu'on va traverser.
Si. Yo, por ejemplo, llevo a Colombia.
Quand je suis allé en Colombie, j'amenais mes instruments, ma feuille de coca, mes outils pour faire les cérémonies. Je me présentais comme Kayawaya à la douane. Ils ont dit, ok, vous pouvez passer.
Merci de passer, maman. La terre, je suis le dernier connu.
Les voyages sont à l'origine des savoirs de ces guérisseurs nomades. Ils sont aussi un temps d'apprentissage pour les plus jeunes.
Saludo à la madre terre.
Frédéric Cordier est belge. En 2008, il a réalisé un documentaire racontant un de ses voyages initiatiques sur les traces des Kalawaya, une épopée à travers les Andes.
Bah, ils voyageaient à pied des randonnées incroyables à travers cette cordillère pendant des semaines, des mois. Et à travers cette démarche, les papas ou les grands-pères apprenaient la médecine naturelle par les plantes aux petits-enfants, aux garçons uniquement. Il était important pour ces communautés de refaire un grand voyage, comme jadis. On peut dire qu'on a fait 120 km à pied, parfois à 6000 mètres d'altitude, avec des tempêtes de neige. Il faut savoir que le plus âgé du groupe, il avait, je crois qu'il avait 73 ans quand il est parti avec nous. Lui avec un petit sac de feuilles de coca, hein, donc il aide un peu à tenir en altitude. Hein, et on avait du mal à le suivre. C'est évidemment une expérience unique puisque les enfants qui accompagnent ils découvrent leur père et grand-père autrement. Et on s'est vraiment rendu compte qu'à travers ce voyage, ils emmagasinaient un savoir et ils étaient en émerveillement par rapport à cette connaissance. Et les échanges étaient très émouvants. On est à 4000, 4500 mètres d'altitude, de la neige, et puis il y a tout d'un coup une question qui fuse d'un des gamins et qui demande au grand-père de lui apprendre à lire dans les veines des patients. Et pendant toute cette période, il y a ce grand-père qui lui explique comment ça fonctionne, comment il va prendre ça, et puis qu'il doit être patient. La majorité du voyage s'est fait dans le silence. Et une sorte d'introspection. Ils étaient là, les yeux écarquillés, puisque parfois, le long du trajet, les aînés faisaient des offrandes à la montagne, à la terre-mère, ce qu'ils appellent la Pachamama. Et on voyait ces enfants les observer, aussi les observer quand ils cueillaient des plantes et qu'ils leur expliquaient la fonction de l'une ou de l'autre. Je remarquais pendant la marche, le père et le grand-père se parlaient entre eux en Manchakuhai, une langue secrète qui permettait aux Kayoya de conserver leur savoir, comme si là, ils voulaient que les enfants n'entendent pas ce qu'ils disent. Mais c'était 90% de silence et 10% d'échange de paroles. Mais c'était très, très poignant. Et j'ai vécu des choses folles. Notamment, je suis, après plusieurs journées de tournage, en pleine nuit, il y a un papa qui m'appelle et qui me dit « Écoute Frédéric, il y a mon fils qui a des problèmes de qu'on appelle, on va dire ça, l'épilepsie pour nous, et je vais faire un soin, ce qui s'appelle un susto. Et ce soin a duré toute la nuit. Je crois qu'on a commencé au coucher du soleil et il s'est prolongé tard dans la matinée. Et on a vécu ce soin, c'était quelque chose de très, 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 très impressionnant. Il y a des incantations, on met de la fumée autour du patient, il y a des encensoirs, on dépose des feuilles de coca, des herbes sous le front du patient, on tue une poule, donc il se passe plein de petites choses. Et le plus étonnant, c'est qu'on avait vu que cet enfant était il avait un comportement particulier, il était très, très introverti. Et on a fait notre voyage jusqu'à Cusco. Et je l'ai revu avec l'équipe quand on est revenu dans le village. Et il était transformé. La plus belle chose que j'en ai retirée, c'est justement ce qui est autour de nous peut nous soigner. Mais il faut s'ouvrir l'esprit, le cœur et surtout prendre le temps. Cette nature qui est omniprésente quand on va la chercher, elle peut nous apporter beaucoup de quiétude, beaucoup de sagesse et elle peut nous guérir.
Ah, esta es la puerta del centro de salud de Amarete.
Donc là, c'est la porte du centre de santé de Amarete.
Este centro funciona ya con dos especialidades.
Cet centre de santé, il va avoir deux spécialités.
Médicos tradicionales y médicos callawayes.
Soit avec des médecins classiques et la médecine traditionnelle callawaya.
La gente hasta de otros países ya están llegando para poder...
Il y a des gens qui viennent des autres parties du pays curar, et non, même des étrangers qui vont venir jusqu'ici pour se faire soigner.
Depuis 2009, la médecine callawaya, peu coûteuse, est reconnue dans la constitution bolivienne et des centres de santé interculturels ont été créés. En ce samedi matin, la salle d'attente du centre d'Amarete ne désemplit pas. Sur la gauche, un panneau indique le cabinet des infirmières, du dentiste, du radiologue et de tous les docteurs en blouse blanche. Sur la droite, la salle d'accouchement, la consultation spirituelle et le laboratoire des plantes callawaya.
Donc là, il est en train de préparer un mélange de différentes herbes, etc. pour un malade qui a un problème des reins. Donc ils sont en train de chercher toutes les herbes. Et on voit la dame herboriste aussi, qui aide les médecins traditionnels callawaya. Ils sont en train de mélanger et faire cet médicament commandé.
Ahí este Santa María, hay espenco, hay cola de caballo, hay matico.
Au total, vous utilisez combien de plantes?
Más o menos 300 plantas, ¿no?
Plus ou moins 300 plantes.
Qui compartent avec d'autres plantes.
Nous, notre travail va être de soigner avec 12 plantes, pas une seule plante.
On va faire des mates aussi.
On va prendre 12 herbes, on va faire un mélange de différentes tisanes, etc. Et on va tester avec la salive du malade.
Le secret, en fait, repose dans les compositions et les assemblages de ces plantes. Et c'est là que les Kayawaya vont tirer une force au niveau de leur connaissance, parce qu'ils auront cette capacité à développer des combinaisons pour soigner telle ou telle maladie. Et cette grande diversité fait que des laboratoires pharmaceutiques se sont toujours intéressés de près et continuent à s'y intéresser, avec les risques bien connus, hélas, de ce qu'on appelle la privatisation du vivant, c'est-à-dire privatiser des molécules qui deviendront les principes actifs de médicaments chimiques.
Quiere ir primero al médico tradicional o va a ir directo donde él es.
Donc il y a un patient qui vient voir la dentiste.
C'est un consultorio. Bien.
Elle demande à la dentiste s'il veut aller chez le Kayawaya d'abord avant de passer chez elle.
Quanto tempo estaba doliendo?
Combien de temps tu as eu la douleur? Ça fait longtemps.
Calmante, tu la connais, que médecine non mais. Non, clavo de olor.
La médecine naturelle, comme les clous de girofle, ça t'a fait un effet? Oui, oui, ça a marché, la médecine naturelle.
Mi nombre es Lilian Pusarico, soy la odontóloga del centro de salud.
Vous travaillez souvent ensemble, vous, la dentiste, et vous, le médecin Kayawaya?
Sí, primero, los pacientes siempre buscan al Kayawaya.
Les patients, ils vont s'adresser d'abord vers le Kayawaya, parce que c'est une tradition.
Y luego ya cuando es algo ya más severo, más fuerte.
Et quand c'est une chose plus grave, on va travailler ensemble, on va interagir.
Et c'est aussi toute une culture que vous avez découvert, vous qui êtes de la ville.
Sí, porque la ciudad solo es científica, son pastillas y todo.
Oui, parce que en ville c'est plutôt la science, donc tout est des médicaments classiques.
Hay pacientes que tienen piezas dentarias completas y sanas.
Et ici, on peut trouver des gens qui a tous les dents complets. Même s'ils ne vont pas utiliser des dentifrices.
Pero si se lavan con ceniza.
On va se laver avec les cendres.
En tout cas, vous, ça vous a enrichi personnellement?
Obviamente, profesionalmente.
Oui, au niveau professionnel, bien sûr.
Más conocimiento a lo que tú ya tenías.
On ajoute beaucoup de connaissances et ça c'est le futur.
Va de génération en génération et no se va a perder.
Oui, c'est une culture que jamais ça va se perdre, parce que ça va transmettre de génération en génération. Les jeunes, ils sont en train de réapprendre.
Y también depende de nosotros.
Et ça dépend aussi de nous.
La médecine Kayawaya peut être une activité économique solidaire et équitable. Donc, effectivement, des gens s'organisent, une trentaine de familles qui sont impliquées dans un processus de fabrication de tisanes et de pommades, et le gouvernement bolivien encourage aussi ce genre d'initiative en intégrant la médecine traditionnelle Kayawaya. Les Kayawaya, avec leur vision de la santé, nous rappellent que nous sommes complètement liés à ce qui nous entoure, au monde du vivant, et que nous sommes qu'un prolongement de ce qu'on appelle la Pachamama, la terre-mère en quechua, et que on doit chercher à vivre de manière épanouie, équilibrée et harmonieuse pour être en bonne santé.
Yeah. Gracias, papa, por enseñarme esta preparación de pomada.
Merci mon père pour m'avoir appris la préparation de la pomade.
Para mí ha sido un día importante, papá, de que he aprendido.
Aujourd'hui c'était un jour très important pour moi.
He aprendido y esto no lo voy a dejar aquí nomás.
Je vais pas m'arrêter là, je vais continuer à apprendre l'usage des plantes.
Alors quand est-ce que votre fils sera prêt pour préparer les tisanes et la pommade tout seul?
Falta todavía. No se sabe todavía.
Il ne sait pas encore. Manque un petit peu.
Así siempre a mi hijo le enseño.
C'est une transmission de savoir que ça va durer toute la vie.
Después de la preparación, esto vamos a colocar a la olla, ¿no?
Sí.
Luego se coloca a la olla para la préparation de la pomade.
Alors aujourd'hui, vos plantes ont des débouchés économiques. C'est peut-être aussi une opportunité, un avenir?
Claro, obviamente. Es una actividad económica también.
Bien sûr, que sea un moyen économique, parce que à travers la préparation des pommades, des tisanes, des syrops, on peut vendre.
Vous vendez bien sûr ici en Bolivie et aussi en France sous forme de commerce équitable. Et c'est près de 40 kilos de tisanes et de pommades que vous vendez chaque année.
Todo esto nos beneficiamos todos.
Aussi l'argent qui va retourner, on va se distribuer entre toute l'organisation, la coopérative. Ça va nous aider pour améliorer notre condition économique.
C'est le futur.
Oui, ça c'est le futur.
C'est le futur.
Merci à Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger ce voyage avec la fondation Barbier-Muller et Roselyne Segalen qui a rencontré les femmes plongeuses de Corée.
Les Réunions sont les femmes qui plongent pour nourrir leur famille. Elles sont passées d'un statut de prolétaire de la mer à un statut de professionnel. Et maintenant, ce sont carrément des icônes identitaires. Elles ont des connaissances vraiment impressionnantes parce que depuis des siècles qu'elles plongent, elles ont observé le comportement de la faune marine, etc. À tel point que maintenant, les gouvernements sont en train de mettre un programme avec les scientifiques marins pour recueillir leur savoir et surtout le préserver.
Voyage en terre indigène. Une série d'Anne Pastor.
Montage, Thomas Loupias et Mariana Baldi. Mixage, Rémi Quincé. Un documentaire réalisé par David Rocher. Merci à Zora Bensmaili pour le site internet, Violetta Duarte pour les voix et Édouard de Pernouat pour les bonus vidéo.
Cette émission a reçu le soutien de la compagnie Air France et de l'agence Terra Andina Bolivie.
La semaine prochaine, la politique autrement. Nous irons sur l'île de Taquile au Pérou et en Malaisie, à Bornéo, chez les Penans.
Le voyage continue sur franceinter.fr.
Merci Anne Pastor, votre après-midi se poursuivra avec Terre d'Alliance, présentée par Alexandre Hérault. C'est une seconde étape en Terre d'Asie, direction la Corée du Sud.